Et 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tap Tap Tap, qui est là, présentée aujourd'hui par Sandra Bock et Maëlle Ginier de l'association Théâtre à la Page. L'association Théâtre à la Page, en quelques mots, c'est une association qui développe et démocratise l'éducation artistique et culturelle en présentant chaque année une sélection d'œuvres du répertoire théâtral jeunesse. Et cette année, nous nous retrouvons autour des quatre éléments dans nos 8 pièces sélectionnées. Dans cette émission, nous allons donc parler de théâtre, d'œuvres écrites pour la jeunesse, et qui de mieux pour parler de livres que leurs propres auteurs et autrices. Aujourd'hui, pour notre 6e émission, nous vous proposons de rencontrer Karine Serre, autrice de la pièce « Louise les ours », publiée en 2006 par l'École des loisirs. « Louise les ours », c'est l'histoire d'une jeune fille canadienne qui se lie d'amitié avec un ours transparent. Petit à petit, les membres de sa famille adoptent leur ours respectif et luttent contre le chef de la milice anti-ours. Cette pièce parle d'acceptation, de l'imaginaire des enfants et de leur force de vie. Mais avant de commencer, bonjour Karine.
Bonjour.
Bonjour. Alors, le résumé n'est pas exhaustif, mais on va vous en dire plus sur la pièce dans pas très très longtemps. Afin d'introduire cet entretien, je vous proposerai une première question avant de vous laisser la parole, Karine. Au cours de l'émission, nous écouterons deux lectures de la pièce faite par des étudiants en licence 3 à l'Université Grenoble-Alpes en comité de lecture. L'introduction est faite, nous pouvons commencer. Ta, ta, ta.
Tout de suite, les questions, les réponses.
Alors, avant de parler de la pièce, parlons d'abord de vous. Vous pratiquez la scénographie, l'écriture dramatique et radiophonique et bien d'autres styles d'écriture comme le roman ou l'album. Tout cela sincèrement dédié à la jeunesse. Je reprends le terme sincèrement que j'ai tiré de votre biographie sur votre site internet. J'aimerais donc vous interroger sur ce qui vous a motivé à écrire du théâtre jeunesse pour la première fois. Karine, je vous laisse la parole.
Eh bien, en fait, c'est le hasard, figurez-vous. je travaillais déjà comme costumière et la première pièce que j'ai écrite s'est montée dans le réseau Jeune Public alors qu'elle n'était pas spécialement destinée au jeune public. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour ce public, pour sa sincérité, pour son enthousiasme, pour ses réactions sans filtre. Et depuis, j'ai toujours essayé d'écrire pour le plus grand nombre d'âges possible. Alors parfois, les thèmes ou les histoires ou les personnages seraient ennuyeux pour des enfants ou pour des adolescents. Dans ce cas-là, je me dis, dommage, c'est que pour adultes. Mais mon idéal de public, c'est un public aux âges mélangés.
Super. Et donc, du coup, tu as évoqué le fait que tu étais costumière, chose que je n'avais pas relevée. Donc, tu t'es d'abord du coup dirigée vers le théâtre du côté plutôt manuel, pratique aussi du côté de la scénographie. Est-ce que peut-être que tu peux nous en dire plus sur cette première rencontre avec ce public, dans quel contexte elle est apparue ?
Avec le jeune public,
oui.
Vous voulez dire ?
Oui, pardon.
D'accord. Et bien en fait, ma première pièce qui a été montée s'appelait Katak. C'est la première pièce que j'avais écrite et qui est une sorte de Roméo et Juliette à la préhistoire. Je ne suis pas sûre que ça arriverait à se faire produire de nos jours, ni même pour le jeune public. Et c'était une pièce assez délirante avec des Néandertals, des Cro-Magnons qui parlaient en alexandrin ou en borborygme. C'était un magnifique spectacle et qui s'est joué, qui a pas mal tourné. Je crois qu'il s'est créé à Athénor, à Saint-Nazaire. C'était Étienne Pommeret qui l'a mis en scène. Et en fait, ce qui m'a sidérée, c'est que, donc, vous voyez, c'est pas très réaliste, quoi, c'est pas très proche de nous. Et en fait, ce qui m'a sidérée, c'est que ce public jeune, du coup, je crois que ça s'est joué pour des, comment on dirait aujourd'hui, cycle 2 ou 3, je sais plus, les CM2, 6e, 5e, c'est quoi?
Oui, c'est ça.
Ouais. Et en fait, ce qui m'a sidérée, c'est qu'ils embarquent à ce point dans cette histoire. Et ça, c'est la force du théâtre, je crois, et la force de la fiction au théâtre. C'est-à-dire que vous pouvez écrire des choses très extrêmes dans l'imaginaire, mais la réalité du plateau et la proximité des comédiens et des comédiennes juste là, vivant et respirant à côté de vous, fait que ça devient crédible ou qu'en tout cas on a encore plus de joie à y embarquer.
Eh bien, parfait, merci pour ces premières réponses. On va rentrer plus dans votre travail et dans la pièce qui nous concerne, nous, à Théâtre à la Page, avec Louise Les Ours, en tout cas pour cette année. Nos auditeurs et auditrices vont pouvoir écouter la première scène, et non, pardon, la deuxième scène de la pièce. Nous sommes aux côtés de Louise, sa sœur et son père, et les premiers ours.
Ta, ta, ta.
Le théâtre, ça s'écoute ?
Liste des personnages. Louise Wing, 11 ans. Yann Wing, son père. Elinor Wing, sa grande sœur adolescente. Bob Prescott, voisin, chef de la milice. Scène 2. Louise entre dans la cuisine, sac sur l'épaule, cheveux mouillés. Son père et sa sœur, déjà à table, l'attendent pour le dîner. Louise.
Merde.
Wow, Louise, elle est vulgaire.
C'est pas grave.
Excusez-moi, j'ai voulu dire trop tôt.
Merde.
Y a pas de soucis.
Je recommence. Liste des personnages. Louise Wing, 11 ans. Yann Wing, son père. Elinor Wing, sa grande sœur adolescente. Bob Prescott, voisin, chef de la milice. Scène 2. Louise entre dans la cuisine, sac sur l'épaule, cheveux mouillés. Son père et sa sœur, déjà à table, l'attendent pour le dîner. Louise.
J'ai tourné la tête. Un ours, c'était.
Elinor et Yann, aussitôt inquiets.
Blanc. Un ours blanc.
Elinor.
Ici. Blanc, transparent, oui.
Yann.
Un albinos.
Debout sur ses pattes arrière, derrière moi exactement. Il m'a suivi jusqu'ici.
Ah.
Quoi?
Je peux lui dire d'entrer.
Branle-bas de combat dans la cuisine, panique sauf Louise.
Mais t'es taré.
Oh, pas de panique. Téléphone, ne bougez pas.
Tu viens, c'est là.
Louise fait entrer de la main l'ours invisible, simultanément Yann et Elinor.
Maman.
Non, non.
Où il est?
Louise à l'ours invisible.
Alors, mon père, Yann Wing, et ma sœur, Elinor. Oh, on peut l'inviter à manger?
Attends, mais...
Mais il est où ton ours, là?
Là!
À l'ours.
Ma sœur, donc.
T'as fumé ton maillot de bain ou quoi?
Où ça, là?
Mais là, papa! Tout immense, tout blanc, transparent, regarde! T'es mirou ou quoi?
Après un temps, Yann se décide et met un couvert de plus à table. Yann à Elinor.
Pousse-toi, chut! Voilà. Allez, on mange maintenant.
À l'ours invisible.
Asseyez-vous, monsieur le... Comment il s'appelle, Louise?
Je ne sais pas, pas. Je ne l'ai pas demandé.
À sa sœur.
Tu vois?
Louise s'assied, invite l'ours de la main.
Allez, je meurs de faim, moi. Tu ne veux pas?
À la famille qui ne voit rien.
Il a pas faim, je crois.
À l'ours.
T'asseoir, au moins.
Elle prend la chaise qu'elle pousse derrière elle.
Voilà.
Bon, on mange quoi?
Louise à l'ours.
Ma sœur se fait embrasser devant le lycée.
Tais-toi.
Contre le mur de briques en plein soleil, ma sœur Elinor se laisse embrasser. Les bras écartés, les yeux fermés.
Je vais te tuer.
Les filles, s'il vous plaît.
C'est bon, c'est quoi?
Du steak d'ours.
Elle ment, ne l'écoute pas.
Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle.
Vous avez pu reconnaître Louise Attaque, Je t'emmène au vent, une musique de 1997. Nous avons eu le temps de réfléchir à la question pendant la musique. Je laisse la parole à Sandra qui a une première question du coup pour toi, Karine.
Alors bonjour Karine, enchantée.
Bonjour.
Alors, je serai la voix de Marie Bernanos, notre présidente qui ne peut pas être là, mais qui avait très envie de vous poser certaines questions autour de l'œuvre. Alors, la première, elle vous demande quelles sont les origines de cette pièce, à la fois matérielle et en termes d'imaginaire, en relation avec l'Ouest canadien dont on sent la présence ici ou là dans le texte. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai lu le texte, j'entendais l'accent québécois. Donc... Réellement. Donc, dites-moi tout.
Alors, moi, j'écris de la fiction. Et la fiction, à part certains cas précis, arrive dans ma tête sans que je ne contrôle rien du tout. Et donc, quand cette histoire... Ça commence par une phrase. Et puis, après, je tourne autour. Et petit à petit, je comprends qui parle et quelle histoire on me raconte. Et donc, quand cette histoire a commencé dans ma tête en 2003-2004, j'étais super embêtée. Parce que je me suis rendu compte assez rapidement qu'en effet, ça ne se passait pas en France et même que ça se passait au Québec. Sauf que je n'avais jamais mis les pieds au Québec et que je ne lis pas spécialement de littérature québécoise ni rien. Et donc, je me suis dit que ça allait être terrible parce qu'il fallait être crédible.
Oui.
C'est la clé de la fiction, c'est que justement, il faut que ça ait l'air possible. Et en fait, le hasard a été génial. C'est que j'ai été invitée pour la première fois de ma vie au Québec dans la résidence artistique de Banff, dans les Rocheuses. C'est même au Canada, si je ne m'abuse.
Oui,
c'est au Canada, c'est pas au Québec. C'est près de Calgary. Pour la traduction d'une autre de mes pièces, qui est ma pièce qui s'appelle Colza, en anglais. Et sur le coup, je n'ai même pas réalisé. C'est-à-dire, j'étais trop contente d'être invitée pour la traduction d'une de mes pièces en anglais. Et puis, le boulot a été passionnant. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que j'étais dans le pays de Louise Les Ours, une fois que je me suis un peu remise de mes émotions de voyage. Et c'était extraordinaire parce que du coup, énormément de détails concrets ont pu trouver leur place. Et une clé du texte aussi, qui était le rapport au danger qu'amènent les ours. C'est-à-dire toute l'histoire de Bob Prescott et tout, mais surtout toute la lecture non fantastique que d'autres gens peuvent faire de cette histoire de Louise. Et je pense que si je n'étais pas allée au Québec, je n'aurais pas eu ce réalisme, vous savez, de voir des autocollants sur les poubelles où il y a écrit « Attention, fermez ». Pour pas que les ours viennent, ou des panneaux qui disent « rentrez vos petits chiens » pour pas qu'ils se fassent attaquer la nuit. Enfin, toute une mythologie aussi d'histoire contemporaine, d'attaque dans la forêt, des trucs comme ça, de non-cohabitation simple, qui est assez portée par Elinor et Bob Prescott dans le texte. Mais du coup, ça, c'est devenu un ancrage archi-réel qui m'a permis de développer la partie fantastique tranquillement.
D'accord. Eh ben, du coup, ça permet une très bonne transition avec l'autre question de Marie, qui justement, alors pour elle, elle dit que donc, votre pièce, elle correspond à une forme de dramaturgie peu fréquente et justement de nature fantastique. Et est-ce que vous pouvez développer un peu cet aspect parce qu'il y a toujours cette question de l'ours, est-ce qu'il existe vraiment, l'univers qu'il y a autour des personnages. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette partie fantastique?
Alors, en fait, c'est tout ce que j'écris, tout le théâtre que j'écris, mais même les romans et tout ça. J'aime parler de gens de petites vies qui ont l'air banales et dont on ne parle pas beaucoup, et souvent de gens assez taciturnes, assez secrets, et qui, du coup, ont un monde intérieur très développé, très intense, qui leur permet de survivre ou de mieux vivre ou d'avancer dans la vie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le rapport au fantastique dans le théâtre est extraordinaire parce qu'en fait, le fait que ce soit du spectacle vivant et que donc ce soit des vivants qui parlent à d'autres vivants fait que vous pouvez pousser le fantastique plus loin. Si j'écris un roman avec du fantastique, le lecteur ou la lectrice peut tout le temps lever la tête et dire « oui, bon, ça, c'est trop ». Tandis qu'au théâtre, vous êtes devant Louise qui dit qu'elle voit les ours. Donc, au bout d'un moment, c'est vous qui doutez de votre propre perception. Et dans Louise les ours, ce qui culmine, c'est que le cœur de l'histoire est en effet invisible. Mais même, il est même pas que invisible, il est invisible impossible. C'est-à-dire que plus j'écrivais ce texte, plus je me rendais compte que les ours, ils étaient blancs invisibles. Ce qui n'est pas possible. C'est pas compatible. Ils sont soit blancs, soit invisibles. Et moi, ils sont blancs invisibles. Donc, de toute façon, c'est une énigme. Et je pense que la richesse des spectacles qui ont été montés derrière tient aussi à cette énigme. Venant de la technique du spectacle et des équipes artistiques, je fais énormément confiance aux équipes qui créent les textes pour résoudre tout ça, ou pour décider, ou pour inventer des solutions qui deviennent un passage vers le public. Et donc là, ces ours bizarres, hein, sont à la fois une clé narrative et, je pense, un ressort de travail. Bon, en tout cas, un endroit de recherche qui est offert, quoi, avec confiance. Je crois vraiment dans le relais de l'autrice, pour mon cas, ou l'auteur, vers les équipes artistiques, vers le public. Comme pour moi, il y a vraiment une triangulation active.
Et juste, c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, là, on commence à avoir des retours des élèves qui lisent vos œuvres, et peu importe les âges, et vraiment cette partie, enfin l'ours, ça les interroge, et vraiment, ils se font un imaginaire autour de ça, c'est hyper beau, et ils se laissent porter par l'histoire, et justement, cette partie réelle par réelle, et se poser toutes les questions dont vous avez parlé, c'est fou quand on voit les retours des enfants, comme ça ressort. Et c'est impressionnant.
Ah ben c'est génial.
Ouais, vraiment.
C'est génial. Moi, c'est vraiment ma foi dans l'humanité. Elle tient à l'imaginaire. C'est-à-dire, je pense que c'est ça qu'on a en commun, cette capacité-là.
Tout à fait, complètement.
Et ça à tous les âges.
Oui, exactement.
Et du coup, je viens ajouter une petite question par rapport au... Donc, ce texte a été quand même pas mal mis en scène, j'ai l'impression. Et du coup, quelles ont été les différentes formes de solutions? C'est une question qui arrive plus tard, c'est pas grave. J'anticipe un peu. Quelles sont les différentes formes de représentation des ours qui ont été mis en scène?
Eh bien, ce qui est génial, c'est que ça marche avec tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a eu des inventions visuelles, il y a eu des inventions sonores, des inventions qui ont combiné les deux. Quand Patrice Doucher l'a créé, il y avait des blocs de glace suspendus qui fondaient en direct pendant la représentation. C'était magnifique, avec la lumière qui passait à travers, qui ne représentait pas les ours, mais qui était comme un pan du monde qu'on ne voit pas d'habitude et qui, là, était en train de fondre. Après, en France, ça a été monté par Béatrice Algazi, qui l'a monté avec des sortes de sculptures en papier de soie éclairées de l'intérieur ou des masques éclairés de l'intérieur. C'était hyper beau aussi. Après, ça a été monté à Ivry par Marie-Claire Braconneau, avec des enfants, que des enfants comédiens. Et c'était magnifique que tous les personnages soient portés par des enfants. Tout d'un coup, ça a décalé complètement. Et eux, c'était avec des habits blancs. Ils avaient fait des tas d'habits blancs. C'était super beau. Et des coussins aussi, des coussins, des couettes et tout ça. En Russie, il y a eu une mise en espace. Après, il y a eu un spectacle, mais je ne l'ai pas vu. Mais la mise en espace, en tout cas, c'était des ombres à partir d'un porte-manteau. Vous savez, les porte-manteaux perroquets sur lesquels la famille accrochait ses habits. En Suède, par Dritero Kasapi, c'était un immense mur blanc avec des tiroirs qui s'ouvraient et qui se fermaient tout seuls. C'était super beau. Aux États-Unis, il y a eu une mise en espace aussi dans le festival New Visions, New Voices par Derdre et Kelly Lavracas. Et elle avait fait venir un beatboxer qui beatboxait en direct. Donc c'était le son qui tournait tout autour de nous. Dans la créa de Patrice Doucet aussi, il y avait un son 5.1, je crois que c'était le début de ça au théâtre. Quoi d'autre pour les ours? Je crois que c'est tout.
Alors, c'est déjà...
c'est pas mal déjà. Oui, quoi.
C'est déjà pas mal et du coup, on note le côté international de cette pièce parce que vous avez parlé de mise en scène
suédoise. Moi-même, oui.
Donc, c'est super chouette. On fait un petit clin d'œil à Tassia de notre association qui commence à traduire des textes en Russie, des textes de théâtre jeunesse. Donc, voilà, qui participe à ce côté international du théâtre jeunesse français qui rayonne quand même. Donc, oui, c'est assez agréable de savoir tout ça.
Et qui, pour le coup, aime vraiment beaucoup Louise Les Ours.
Et en plus, elle aime beaucoup Louise Les Ours. Hein.
Ouais, elle fait un travail d'autres œuvres. En tout cas, elle essaye, mais en tant que lectrice, je sais qu'elle aime beaucoup ce texte.
Ah, super.
Un double clin d'œil, parce qu'elle a aussi remis en place les podcasts il y a 2-3 ans quand elle était en France.
D'accord.
Donc voilà, c'est un double clin d'œil complet.
On pense à elle.
À Tassia. Alors, je vous propose une seconde pause musicale et théâtrale. Et tout de suite, la scène 3 de Louise Les Ours.
Ta, ta, ta.
Le théâtre, ça s'écoute ?
Scène 3. Yann, Louise. Le lendemain matin, Louise part pour l'école et Yann travaille. Je crois que c'est absolument pas ça.
Il faut que tu trouves la page, je n'allais pas le faire.
C'était la scène 27.
50 choses la page.
Oui. Bon, bref. Scène 27. Yann, Elinor, Bob Prescott, off. Même soirée un peu plus tard. Yann.
C'est comme de vous regarder partir dans un champ de mine avec des tongs aux pieds.
Il lui tend une nouvelle tasse de thé.
Et ne rien pouvoir faire pour empêcher ça. Juste vous attendre de l'autre côté, tu vois.
Regardant par la fenêtre.
Oh non, c'est pas vrai.
Elinor le rejoignant.
Quoi ?
Sur la pelouse, là.
Louise ! Elle dormait pourtant. Je te jure, je l'ai couchée.
Ah, elle a dû sortir par derrière, pieds nus, sans faire de bruit.
C'est elle, je reconnais sa chemise de nuit.
Qui flotte au vent, comme un fantôme. Ou un ours blanc.
Elle va se faire canarder par cette bande de...
Yann, ouvrant la porte.
Mais non, ils sont loin maintenant.
Sûr, tu les vois pas ?
Coup de feu dans la nuit.
Sors pas !
Les coups de feu continuent, se rapprochent, des pas. Yann, à la porte.
Ah, ça va, il est tout seul, ça va.
Qui ?
Ce taré de Bob, encore bourré.
Il se précipite dehors devant la maison.
Louise ! Louise, reviens !
Bob Prescott.
Oh les mains, j'ai dit !
Louise, reviens maintenant !
Elle t'entend pas ou quoi ?
Espèce de grizzly de mes deux. Pow, pow.
Louise.
Bob, ça suffit.
Bob Prescott tire vers la maison.
Pow, pow. Papa, ça va?
Yann se cache dehors.
Baisse-toi, Ellie. Il est complètement pété.
Bob Prescott criant vers la maison.
Et pas me planter ma mission, toi.
Éteins les lampes, Ellie. Sinon, il va.
Prescott.
Mais c'est ma fille, pauvre con.
Elinor, dans le noir, bat.
Louise. Pourquoi tu danses comme ça ?
Mais bouge pas, sale bête !
Bon, Ellie, je vais la chercher.
Fais gaffe !
T'inquiète, je me cache derrière les...
Mais t'empailler la gueule, moi ! Pa !
Elinor bat.
Non, Lou, n'écarte pas les bras comme ça, il va te prendre pour un... Et la lune qui t'éclaire en plus, il est si près. Ah, je veux pas voir ça. Louise !
Pa ! Pébri le chute sur la route, Ellie court à la porte. Elinor criant.
Louise, pas, t'es blessée ?
Non, non.
Elinor criant.
Et Louise ?
Ça va, tout va bien. C'est le vieux taré qui est tombé. Ivre mort. Louise n'a rien. Je la ramène. Tu veux bien rallumer que j'y vois ?
Dites à mes amis que je m'en vais. Je pars vers de nouveaux pays. Où le ciel est tout bleu. Dites que je m'en vais. Et c'est tout ce qui compte en ma vie. Dites à mes amis que je m'en vais. Et j'aime chacun des pas que je fais. Le soleil est mon guide et moi je m'en vais. Je ne peux m'empêcher de sourire. Car il n'y a rien de mieux que de se revoir. Peu importe ce qui nous
Je pense que vous avez reconnu de nouveau la musique de Frères des Ours, Je m'en vais, chantée par Phil Collins, et ça on s'en lasse pas. Vous êtes bien sur Campus Grenoble 90.8, nous reprenons notre entretien avec Karine Serre pour Tap 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 qui est là. Sandra, je te laisse de nouveau la parole.
Oui, alors du coup, par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure et à ce qui se passait sur le plateau lors des différentes représentations de Louise les Ours, la question, c'est par rapport à vos expériences que vous avez vécues en tant que spectatrice de votre pièce, quelles sont les différentes mises en scène qui vous ont le plus marqué? Quel est votre ressenti par rapport à tout ça?
En fait, j'ai déjà eu une immense chance, dans le sens où en France, souvent, quand un texte est créé, que ce soit pour jeune public ou pour adultes, il est créé une seule fois, puis c'est tout. C'est-à-dire, c'est comme si en France, il y a une espèce de joie d'être découvreur ou découvreuse des textes. Mmh. Et très rarement, les textes sont repris. On a peu de répertoire. Je sais que Marie Bernanos, elle a ça vraiment à cœur. Mais finalement, de fait, les compagnies, elles aiment bien avoir des textes nouveaux. Alors, c'est bien parce qu'on nous passe des commandes. Mais en même temps, je me suis rendu compte de la chance d'avoir un texte créé très nombreuses fois. C'est que, en fait, c'est le texte avec lequel j'ai le plus appris sur ma propre écriture théâtrale. D'une part, pour mesurer la richesse du fait de faire confiance et de passer le relais totalement à l'équipe de création, c'est-à-dire pour voir une telle variété de mise en scène. Et puis, de mesurer aussi les endroits où les choses sont prises différemment. Pour donner un exemple, par exemple, dans la version suédoise, je ne parle pas suédois, mais je comprends en gros ce type de langue. Et quand j'y ai assisté, je me suis rendu compte que le spectacle durait 45 minutes, alors qu'en France, il dure 1h30. Et j'étais incapable de dire ce qu'ils avaient coupé. Et ils ne parlaient pas spécialement vite. Hein. Mais du coup, ça vous en fout un coup sur l'humilité. C'est-à-dire qu'en enlevant la moitié du texte, toute l'histoire est là. Ça m'a longtemps posé question en me disant mais ok, on peut être plus concise, en fait. L'autre chose, par exemple, qui m'a fait réaliser la diversité des cultures, c'est aux États-Unis. Ça s'est mis en espace dans un festival qui s'appelle New Visions, New Voices, qui est le top de la crème du jeune public américain. Ça a été super apprécié, mais dans la discussion derrière, tous les lieux, pourtant les gros lieux qui ont l'habitude de faire plein de trucs et tout, ont dit qu'ils ne s'engageraient jamais à le produire, parce que pour eux, ça touchait à un tabou qui est, à leurs yeux, la folie d'un enfant. Alors que nous, dans la lecture française, on est plutôt sur les marges de l'imaginaire débordant, mais on ne se dit pas qu'il faut l'incarner tout de suite. Alors qu'aux États-Unis, il y a quelque chose tout de suite de très, très pathologique. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre? En fait, l'endroit d'où la narration se place, est-ce qu'elle se place plutôt du point de vue intérieur de Louise et puis le reste du monde qui est périphérique et presque spectateur de cette histoire, ou se placer plutôt du point de vue des adultes et Louise qui touche les bords très très vite, quoi. Non, et une autre chose que ça m'a appris aussi, c'est que, vous savez, en français, on fait plein de jeux de mots. Et donc, moi, j'essaye de mettre plein de blagues et de jeux de mots et tout ça dans mes textes, mais ça ne marche pas toujours. Même en France, on ne le voit pas forcément. Mais il y a un truc, je ne sais plus quel est le numéro de la scène, mais il y a un moment où l'ours lui dit « Dans mon pays, on te mange », etc. Et ça, ça vient d'un coquillage qui s'appelle des luisettes en Charente-Maritime. Et donc, j'ai fait un jeu de mots là-dessus sans l'expliquer. Mais du coup, dans les différentes traductions, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les traducteurs et traductrices, et ça, c'est passionnant. Dans les différentes traductions, j'ai à chaque fois expliqué que cette scène, elle marche par rapport à son nom. C'est-à-dire que sinon, on se demande pourquoi il la mange. Et ça a amené un truc magnifique en polonais. Un jour, la traductrice m'a envoyé un mail en me disant « Mais en fait, si on veut refaire ça, il faudrait que tu nous autorises à changer le prénom. » Parce qu'il y a un prénom polonais qui s'appelle Jagoda, qui est une baie. Et c'est une baie que les ours adorent manger. Et c'est aussi un prénom super courant en polonais. Donc en fait, si on change ça, tu vas avoir ta blague, mais complètement décalée. Et donc, c'est assez génial de se dire aussi qu'à chaque traduction, la partie intraduisible, d'une part, elle vous force à vous demander pourquoi vous l'avez écrite comme ça et pourquoi elle est intraduisible dans d'autres langues. Et puis, elle amène à trouver une autre version pour exprimer la même chose ou pour faire traverser les mêmes émotions au public. Et ça, c'est assez génial. C'est-à-dire que chaque fois qu'un de vos textes est traduit, mais en fait, vous réexplorez ce pays-là ou ce territoire, et vous en découvrez des espaces que vous ne pouviez pas connaître dans votre langue maternelle. Et ça, c'est assez sans fin.
Et alors, vous nous avez dit en off, mais on peut avoir une petite exclusivité, quand sera monté le prochain ou la prochaine mise en scène de Louise les ours, et dans quel pays ?
Alors, déjà, elle vient d'être... la dernière version en date, c'est une version en breton, qui a été traduite et mise en ondes sonores, radio, donc peut-être ça, vous pourrez avoir ce document-là ou ce lien, par le Théâtre Piba, dans le Finistère. Et demain, c'est la première de la version brésilienne de Louise des Ours, qui s'appelle Luisa Ursus, je ne sais pas comment ça se prononce, par la compagnie Pandorga. Et j'ai super, super hâte d'avoir des images et de savoir comment ça s'est passé. C'est un ami qui est metteur en scène. Et puis, j'ai beaucoup parlé par Zoom avec toute la compagnie. Donc, c'est drôlement émouvant quoi, de se dire que les imaginaires, ça circule.
Et ça vous voulez pas un petit voyage au Brésil ? C'est possible aussi, peut-être.
Eh bien, ils m'ont invité, mais alors j'ai un problème éthique, quoi. Parce que je pouvais y aller que 3 jours et je ne vais pas prendre l'avion si longue distance pour aller 3 jours. Donc, en fait, ils vont le reprendre normalement cet automne et puis la saison prochaine. Et je leur ai dit que s'ils arrivent à me trouver un séjour un peu plus long où je travaille avec eux et tout, là, d'accord. Mais sinon, non. Et il y a aussi un projet en Italie qui devait se créer cet automne et qui a eu des problèmes financiers. Donc, j'attends de savoir aussi, mais ça ne devrait pas tarder. Et enfin, pour finir, il y a un projet au théâtre, au CDN de Poitiers, qui s'appelle le Méta, et où je suis artiste, je fais partie du Vivier, c'est un peu comme des artistes associés, mais on est très nombreux. Et là, on a un projet de développement d'univers numérique qui s'appellerait l'Ours, Ours au féminin monde, qui serait un univers à explorer, un univers contributif, à la fois esthétique, littéraire, musical, qu'on est en train de travailler là-dessus, qui serait accessible par le site du Méta. Voilà.
D'accord. Et j'avais une dernière question, je peux la poser. Je regarde Maïlys si elle me dit oui ou non. Alors, là, ce n'est pas par rapport à la mise en scène, mais c'est par rapport à la chose qu'on entend tout de suite quand on voit une œuvre, c'est le titre. Et oui. Quelle est l'origine de votre titre ? Il y a une petite particularité que Marie Bernanos a relevée, c'est la barre oblique qu'on très souvent on oublie parce que c'est Louise. Les ours, c'est ça ? Et donc, du coup, quelle est la particularité de ce titre ? Parce que je suppose que cette barre est très importante.
Oui, elle est importante. Et en plus, en 2003-2004, il y avait beaucoup moins d'utilisation de ce slash que maintenant. En fait, je cherchais, vous savez, un titre, il faut que ça, à la fois, ça résume, ça attire, ça intrigue et que ça soit beau. Donc, il faut combiner plein de trucs et j'adore chercher le bon titre. Et là, en fait, ce que je voulais exprimer, c'est que c'est l'histoire et de Louise et des ours, mais qui sont indissociablement liées. C'est-à-dire que c'est l'histoire du moment où leurs deux histoires sont communes. Et donc, j'ai cherché avec un tiret, mais un tiret, ça ne marchait pas. À un moment, je m'étais dit qu'il fallait qu'ils soient le reflet l'un de l'autre, mais alors, lequel choisir au-dessus, lequel choisir en dessous. Et du coup, ce slash m'a semblé vraiment faire ce côté reflet, mais en biais, et donc plus lisible. Il saute très souvent, hein, chaque fois qu'on parle, on dit souvent que c'est Louise et les ours, mais du coup, ça me donne l'occasion de raconter pourquoi j'ai mis un slash. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'ils sont plus que liés par un petit « et ». Il y a un truc poreux.
En effet. je me permets d'enchaîner avec une question des L3, parce que je pense qu'on y a... Elle touche un peu ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais je pense que elle est un peu en décalage. J'ai une personne, Mathieu, qui se reconnaîtra, qui vous interroge sur la notion de métaphore des ours. Est-ce que c'est ça va jusque là ou est-ce qu'on reste dans l'imaginaire? Est-ce qu'il y aurait une métaphore à travers les ours ou elle est inconsciente, elle est présente? Voilà, il nous interroge parce que pour lui c'était une évidence que c'était une métaphore, mais il n'était pas capable de formuler laquelle.
Alors, il y a une métaphore complètement inconsciente dont tous les gens qui s'y connaissent énormément en mythologie, en analyse et tout ça peuvent écrire des pages et des pages. Et je trouve ça formidable que nos œuvres recèlent des couches de sens qu'on n'a même pas pensé mettre. C'est-à-dire que ça, c'est toute la part de la culture qui est en nous. Mais il y a quelque chose de génial, j'adore quand la réalité dépasse la fiction, c'est que quand je travaillais aux États-Unis, vous savez, aux États-Unis, il y a souvent des dramaturges qui travaillent sur tout l'univers pour vérifier qu'on est réglo, surtout là par rapport au peuple premier, vous savez que je cite. Et donc, il y a eu quelqu'un qui a checké ça et qui a découvert qu'il y a une tribu dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est en Colombie-Britannique, une tribu donc des Amérindiens, comment est-ce qu'on dit, peuple premier, qui est très très proche d'ours qui s'appellent les ours Kermode, K-E-R-M-O-D-E, donc des vrais ours, dont le pelage n'est pas albinos, mais un peu blanc, transparent, doré, qui vivent dans les arbres, et qui sont des ours sacrés, et tenez-vous bien, qu'en plus, ces ours dansent. Donc, en fait, ce que j'adore, c'est que moi, j'ai écrit une fiction que j'avais dans la tête, et que j'ai développée en toute liberté et comment dire imaginaire intérieur que j'ai essayé de partager. Et puis, on peut y lire énormément de métaphores et tout ça boucle la boucle, c'est-à-dire que ça revient à un réel qui a vraiment existé et fait partie de cultures d'autres humains et humaines. Du coup, ça, je trouve que c'est assez génial.
Oui, c'est incroyable, tous les liens qu'on peut tisser. Et je pense que ça résume vraiment l'importance de la littérature au sens large, où en fait, on a des liens qui se créent selon la personne qu'on est, en fait.
Mais oui, c'est ça. Et du coup, ce que vous lisez dans le livre qui a été publié n'est pas la version scénique actuelle dans laquelle j'ai corrigé toute la partie Kitschi Kitschi Manitou pour qu'elle colle avec la mythologie de ce peuple-là. Donc, si jamais un jour, vous voulez lire la dernière bonne version, ouais. De toute façon, il n'y a jamais de dernière version, mais la version retravaillée la plus à jour, je vous l'enverrai, vous verrez qu'il y a un autre... Le passage est différent.
Bah, du coup, le texte évolue en permanence.
Pour citer ces gens.
C'est ça.
Ben oui, en fait, même le livre, c'est le texte à un moment donné. Et c'est formidable, c'est parce que ça permet à nos écritures de circuler au-delà de nos cercles à nous. Mais c'est jamais fini. Donc, en fait, je pense un conseil à donner à tous nos auditeurs, auditrices et aux étudiantes et étudiants. Quand vous voulez monter un texte, demandez à l'auteur ou l'autrice sa dernière version. Il y a très, très souvent une dernière version qui est plus récente que la publication.
Et oui, on rappelle aussi qu'il faut penser que monter du théâtre contemporain, ça veut dire qu'on est en contact aussi avec les auteurs et autrices. Et c'est pas parce qu'ils ont écrit un livre qu'on ne peut plus les contacter.
C'est ça. Donc, mais oui, c'est des gens vivants et normaux.
Merci beaucoup de le rappeler. Merci pour cet entretien. Nous arrivons à la fin. Merci beaucoup Karine, on vous retrouve du coup pour Regards Croisés, qui est un festival de textes contemporains qui se déroule à Grenoble du 4 au 14 mai au Théâtre 145, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc on peut vous retrouver là-bas pour les actus grenobloises et puis à plein d'autres moments. Nous arrivons à la fin de cette 6e émission de Tap 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 qui est là sur Radio Campus. J'espère que cette émission vous a plu et que vous aimerez écouter les prochaines. Je profite de ce petit créneau pour vous faire un instant promotion. Pour le 1er juin, Théâtre à la Page fait son festival tapageur à l'Espace 600. Le 1er juin, c'est le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse. Et pour l'occasion, nous faisons une rencontre avec sept classes participantes à notre projet qui viendront présenter des petites mises en scène, mises en voix des textes qu'ils ont lus pendant l'année. On aura aussi la fin de la journée qui sera conclue par deux tables rondes qui viendront aborder les questions de notre temps sur le théâtre jeunesse. Vous pouvez venir découvrir notre projet sur place, c'est ouvert à toutes et à tous à l'Espace 600 l'après-midi et venir assister aux tables rondes le soir. C'est le 1er juin à l'Espace 600 et c'est Théâtre à la Page qui vous le propose. Je vous donne rendez-vous sinon tous les mardis à 10h30 sur 90.8 ou n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle heure en podcast. C'était Sandra et Maïlis pour Théâtre à la Page. Merci beaucoup.
Tap,
qui est là?
C'était Théâtre à la Page.